Il a 41 années de carrière policière derrière la cravate. Il a fait carrière à la Sûreté du Québec. Il a été membre de l'escouade Carcajou. Il enquêtait sur les Rock Machines pendant la guerre des motards. Il a participé à l'opération Printemps 2001 et à Shark, qui ont donné évidemment des très durs coups, aux Hells Angels. Il a travaillé à la commission Charbonneau depuis 2017. Il est le chef de police, le directeur du service de police de la Ville de Québec. Robert Pigeon, bonjour.
Bonjour, M. Drainville.
Puis vous êtes le président de l'Association des directeurs de police du Québec en plus. Puis là, vous venez d'annoncer votre retraite à 61 ans.
Bien, écoutez, ça peut sembler surprenant pour plusieurs, mais quand j'ai été embauché, en fait, c'est au mois d'août 2015 que j'ai été embauché par la Ville de Québec, d'abord comme directeur adjoint, je vais devenir un peu plus tard le directeur, mais j'avais garanti une prestation de travail de 5 ans. Donc, je suis maintenant dans ma 6e année, tout va bien ici au service de police, donc c'est le temps de passer à autre chose, passer le flambeau à quelqu'un d'autre maintenant.
C'est-tu pour entreprendre une autre carrière? Il y en a qui vous voient en politique. Moi, je vous verrais bien en politique. Est-ce que ça se pourrait que vous fassiez le saut en politique?
Non, écoutez, d'abord, je vous remercie de m'honorer de cette façon-là, c'est certain, mais je m'en vais vraiment vers des projets personnels, là, donc plusieurs me conseillent. Vous savez, j'ai jamais eu le temps de m'ennuyer jusqu'à date. Là, plusieurs me conseillent, essaye donc de te rendre jusqu'à t'ennuyer une bonne fois, puis tu vas pouvoir prendre des bonnes décisions ensuite. Donc, je ne dis pas que je travaillerai plus jamais, mais ce que je veux dire présentement, c'est pas dans cette direction-là que je me dirige.
Vous allez vraiment là prendre du temps pour vous, peut-être avec votre conjointe, je ne sais pas où vous en êtes là-dedans, votre famille, je ne sais pas si vous avez eu des enfants, là, je ne suis pas allé jusque-là, mais vous voulez vous occuper de vous, là. Pensez à vous.
Oui, ben c'est ça. Il y a plusieurs choses que. D'abord, j'ai encore une bonne capacité physique, une bonne santé. Je suis chanceux, puis j'ai beaucoup d'énergie encore. Donc, il y a des choses que j'ai le goût de faire, que je vais faire maintenant. Puis effectivement, oui, c'est autour de la famille et des amis.
Dans vos 40 ans de vie policière, Robert Pigeon, qu'est-ce qui a changé? Mettons la chose qui vous saute aux yeux. Là, quand j'ai commencé comme policier, c'était comme ça. 40 ans plus tard, c'est devenu comme ça. Puis il y a vraiment eu un gros changement sur ce plan-là. Lequel, à votre avis, est le plus évident?
Bien, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Écoutez, en 1984 est arrivée la Charte canadienne des droits et libertés. Qui est mise en garde. Ça fait drôle de dire ça aujourd'hui, mais d'abord, moi, j'ai commencé comme agent de protection de la faune. Je suis entré dans l'application de la loi. Je suis entré à la Sûreté du Québec et tout le parcours que vous avez énuméré tantôt. Mais ça fait en sorte que j'ai vu tout ça se modifier au cours des années. Et aujourd'hui, bon, on fait de la police beaucoup plus auprès de personnes ayant des problèmes de santé mentale, des personnes qui sont des affiliés, et puis... La criminalité a changé beaucoup aussi, l'arrivée de l'informatique dans la commission de crime, autre chose du genre. Donc, la police a eu à se moderniser tout au long de ces années-là, oui.
Quand vous me parlez de santé mentale, je l'entends de plus en plus souvent, moi, quand je parle à des policiers ou quand j'entends parler de personnes qui vivent avec des policiers, des policières. Écoute, c'est devenu, Robert Pigeon, là, on me dit, moi, qu'il y a des journées où les policiers font plus de travail de travailleurs sociaux ou travailleuses sociales que du vrai travail de policiers pour lequel ils ont été formés.
Alors, vous êtes bien informé, vous avez tout à fait raison. Écoutez, je suis allé patrouiller sur un corps de soir récemment, là, puis j'ai été réparti sur 2 appels de santé mentale. Il y en a une qui a pris 1h45 à dénouer, l'autre un peu plus de 2 heures avec des intervenants sociaux. Alors, voyez-vous, juste dans un corps de travail, et puis moi, j'étais avec un patrouilleur, là, pas parce que j'étais le directeur, j'étais réparti sur les mêmes appels que les autres. Donc, c'est des cas réguliers pour la police qui prennent énormément de temps. Et je vous rappelle, on n'est pas du tout dans un contexte de commission d'un acte criminel, là. On est vraiment en relation d'aide auprès des personnes qui sont un peu perdues puis qui insécurisent les gens autour d'eux.
Puis pourquoi c'est si long? Excusez-moi, là, Robert Pigeon, mais décrivez-nous un petit peu la scène. Quoi, t'es dans la maison, le gars est en crise, faut que tu le calmes, il menace de s'en prendre à lui-même, de s'en prendre à... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si long, un appel comme ça?
Bien, il y a plusieurs variables, ce genre de situation-là. Il y en a qui sont extrêmement agressifs, d'autres qui sont moins, mais sont complètement désorientés, complètement désorganisés. Ils sont plus dans la même réalité que nous tous, là. Alors, nos policiers sont maintenant entraînés ou formés à faire des communications tactiques, à travailler en désescalade. Donc, ça peut être par la position du corps, mais par les paroles prononcées également. Donc, des fois, on prend un peu plus de temps. Pendant ce temps-là, on appelle les intervenants sociaux. Ici, c'est le groupe Pêche là, qui nous assiste. Ce sont des intervenants hautement qualifiés qui viennent en relais avec, aux policiers. Mais plus souvent qu'autrement, ils vont demander aux policiers « Restez avec nous, s'il vous plaît, parce qu'on ne sait pas comment ça va finir, cette affaire-là. » Donc, les policiers ne sont pas libérés de leur appel et doivent rester là jusqu'à la fin de l'intervention, jusqu'à ce que la personne ait retrouvé son équilibre ou soit orientée vers un centre hospitalier.
Je vais dire en affaire, ça va changer la... Ça n'a pas le choix de changer la formation des policiers, Robert Pigeon. Je veux dire, il va falloir que les écoles de police s'ajustent. Puis moi, je me demande, mettons un jeune qui nous écoute ou une jeune, là, puis elle aimait ça, elle aimait l'idée de devenir policière, puis elle vous écoute parler, elle dit, ben là, au moins, c'est pas ça le travail de police. Moi, si je voulais être travailleuse communautaire, je serais travailleuse communautaire, mais c'est pas ça mon rêve. Moi, ce qui me décrit là, c'est pas du travail policier.
Ben, de base, les policiers, ce qu'ils veulent faire, c'est être en relation d'aide, être en contact avec les gens, puis devenir en assistance à la communauté et à la population. C'est d'abord ça qui les guide. Puis l'École nationale de police a réorienté, a changé beaucoup son offre de formation dans les dernières années et l'a adapté aux nouvelles réalités. Mmh. Et les collèges d'enseignement technique policière ont fait la même chose. Donc, c'est pas une surprise pour les policiers lorsqu'ils arrivent. Je parle des nouveaux policiers parce qu'ils ont déjà baigné là-dedans dans le cadre de leur formation.
Parlez-moi des milieux criminels. Comment ça a changé depuis que vous avez commencé? Qu'est-ce qui a changé, là? Je vous parle des groupes, là, appelons ça le crime organisé, là, organisé au sens large.
Bien, le crime organisé a toujours eu cette espèce de capacité de se réorganiser, justement, d'apprendre de leurs erreurs dans le cadre des procès auxquels ils font face. Bien, on divulgue toutes nos techniques d'enquête à chaque fois. Et ils apprennent de nos techniques. Donc, ça nous oblige, nous autres, à être meilleurs, à changer de stratégie par la suite. Et ce qui fait que, présentement, l'offre de service du crime organisé, là, présentement, sur le territoire, a changé beaucoup suite aux grandes opérations comme Printemps 2001 et l'opération Shark. Donc, oui, ça s'est modélisé. On a vu dans le temps arriver une guerre de motards et de groupes affiliés au Rock Machine contre les Hells Angels, extrêmement importante. Plusieurs décès, dont des victimes innocentes.
Mais ils ont fini par fusionner. C'est business. C'est de la business. À un moment donné, ils sont écœurés de se tirer dessus, puis on du garde, tu sais, Salvatore Casetta, puis l'autre dont j'oublie le nom. Ils ont décidé finalement, regarde, on va joindre aux Hells, puis on va former une belle grande famille.
Ben, vous avez raison. Ils sont motivés par les revenus, ils sont motivés par l'argent. C'est ce qui les occupe et les préoccupe le plus. Mais ce qui a préoccupé beaucoup les forces policières, lorsqu'un groupe de crime organisé devient trop fort ou trop puissant, ben on peut se ramasser à un moment donné comme au Mexique ou en Colombie, où on commence à vouloir à s'en prendre aux institutions puis à l'État. C'est ce qui est arrivé à une certaine époque où on a assassiné des gardiens de prison, on a fait feu sur des journalistes.
On est venu proche, hein, Robert Pigeon, à un moment donné, de l'échapper comme société. Hein. Ils sont devenus très, très, très puissants, puis il était temps qu'on mette notre pied à terre.
Hein. Ah, ça, vous avez tout à fait raison. Moi, j'ai eu le privilège d'être un joueur de premier ordre là, dans la résolution des meurtres de gardiens de prison, puis les premiers dossiers en gangstérisme au Canada, qui fait en sorte que j'ai vu ce risque-là arriver aussi. Je peux vous dire que les services de police au Québec, dont la Sûreté du Québec, est un leader en matière de lutte au crime organisé, puis passe la grande partie de son temps à innover et à trouver des solutions, justement, pour se réinventer face au crime organisé.
Parce qu'une fois que tu as accepté, là, mais accepter, c'est pas le bon mot, une fois que tu as vu des gardiens de prison se faire assassiner par les motards, si tu réagis pas, la prochaine fois, ça va être un garde du corps de ministre qui va se faire tirer. Puis la fois d'après, ça va être un député. Puis la fois d'après, ça va être un ministre. Puis là, on rentre dans une société un peu comme la société mexicaine où il n'y a plus de loi et d'ordre et où l'État est avalé par le crime, par le milieu criminalisé. Dans le cas du Mexique, c'est les narcotrafiquants. Moi, j'ai vécu là 2 ans. Je sais très bien comment ça marche. Et donc, c'est pour ça que la société, la démocratie, à un moment donné, faut qu'elle se donne les moyens de les mettre au pas, puis de les démanteler, puis de les mettre en prison.
Oui, les forces de l'ordre doivent être tout à fait à l'affût de ce genre de phénomène-là et de ne pas les laisser passer. Parce que souvent, on entend les gens dire « Ah, oh, c'est pas grave, c'est juste des bandits qui se tuent entre eux autres. » Mais à toutes les fois qu'un bandit élimine un concurrent, il devient encore plus fort. Puis quand il devient plus fort, mais ses prochaines intentions, c'est de se protéger contre tous ceux qui peuvent leur bloquer le chemin, quelque part. Donc, il faut être à l'affût de ça. Il faut s'assurer que le crime organisé ne prenne pas le dessus sur les institutions et l'État.
Comme chef de police à Québec, vous avez vécu évidemment la tuerie de la Grande Mosquée en 2017, la tuerie plus récente dans le Vieux-Québec, le gars qui se promenait avec le sabre japonais. Comment on vit des expériences comme celle-là, Robert Pigeon? Humainement, ça doit être difficile.
Mais d'abord, c'est le genre de situation qu'on souhaite pas que ça arrive à nulle part, là. Mais au moment où on est confronté à ce genre d'affaires-là, moi, ça m'est arrivé deux fois, là, où un tueur de masse s'invite dans ma ville, la ville où j'ai la responsabilité d'assurer la sécurité publique, et on fait un grand nombre de victimes. À ce moment-là, on se met en mode opérationnel rapidement et on commence à traiter le cas, mais ça prend pas de temps, puis on se rend compte que ça marque une société, ça marque une province, ça marque une ville, ça laisse des cicatrices profondes, là.
En tout cas, moi, j'ai de la misère à me convaincre que Robert Pigeon va partir pour toujours, là, parce que vous êtes un homme de service public, là, vous l'avez été depuis plus de 40 ans. Je vous reconnais, écoutez, vous l'avez mérité. Là. Puis d'ailleurs, j'ai plusieurs auditeurs là, qui m'écrivent pour vous féliciter, pour vous remercier pour le travail que vous avez fait. Il y a même quelqu'un qui vous a connu, Marie-France, qui était préposée aux télécommunications et à la Sûreté du Québec à Joliette dans les années 80, a dit que vous étiez tout un gentleman, puis vous aviez l'une des plus belles voix de télécom de Joliette. Alors, vous avez laissé des bons souvenirs auprès des gens avec qui vous avez travaillé. Fait que vous l'avez mérité, votre retraite, monsieur Pigeon, mais vous êtes encore en santé. Vous êtes une maudite belle tête. J'espère qu'on va trouver une façon quand même, collectivement, comme société, de peut-être de vous donner un petit mandat, de trouver une façon de vous garder quand même là dans le service public. Pas à temps plein, vous avez le droit de prendre une petite pause, là, vous l'avez mérité, je l'ai dit. Mais si on était capable de garder le talent de Robert Pigeon au service du Québec encore pendant un petit bout, là, à temps partiel, je pense que ça pourrait être une bonne idée.
Bien, M. Drainville, vos propos me touchent beaucoup. Je suis honoré par ce que vous êtes en train de me dire là. Puis peut-être que vous n'avez pas une si mauvaise idée que ça.
C'est bon, c'est très bon. Merci. Merci pour le service public, Robert Pigeon. Merci pour ce que vous avez fait pour le Québec, là. Et puis ce que vous avez fait pour notre sécurité. Puis il y a beaucoup de choses, évidemment, qu'on ne sait pas. Mais bravo. Garde, bonne retraite, Robert Pigeon. Bonne retraite, je ne peux pas dire autre chose.
Merci beaucoup, M. Drainville. Bonne continuation dans votre travail également.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance. Robert Pigeon, donc, qui va quitter la direction du service de police de la Ville de Québec et la présidence de l'Association des directeurs de police. Tu sais, quand les directeurs des différents corps de police décident que c'est lui qui va nous représenter, ça va être lui notre voix, ça va être lui notre porte-parole, c'est une marque de respect, ça. C'est une marque de respect des autres directeurs de police. Alors voilà, on va s'arrêter et puis après la pause, on va parler à quelqu'un qui vit avec les séquelles de la COVID plusieurs semaines, sinon plusieurs mois après l'avoir contracté, hein, dans un instant, plusieurs mois, voilà.